Consuelo, livre 2, chapitre 43. À peine Consuelo se fut-elle nommée que le comte Albert, levant les yeux au ciel et la regardant au visage, changea tout à coup d'attitude et d'expression. Il laissa tomber à terre son précieux violon avec autant d'indifférence que s'il n'en eût jamais connu l'usage. Et joignant les mains avec un air d'attendrissement profond et de respectueuse douleur, « C'est donc enfin toi que je revois dans ce lieu d'exil et de souffrance, ô ma pauvre Wanda !» s'écria-t-il en poussant un soupir qui semblait briser sa poitrine. « Chère, chère et malheureuse sœur, victime infortunée que j'ai vengée trop tard et que je n'ai pas su défendre. Ah, tu le sais, toi, l'infâme qui t'a outragée a péri dans les tourments, et ma main s'est impitoyablement baignée dans le sang de ses complices. J'ai ouvert la veine profonde de l'église maudite, j'ai lavé ton affront, le mien et celui de mon peuple, dans des fleuves de sang. Que veux-tu de plus, âme inquiète et vindicative? Le temps du zèle et de la colère est passé. Nous voici au jour du repentir et de l'expiation. Demande-moi des larmes et des prières. Ne me demande plus de sang. J'ai horreur du sang désormais et je n'en veux plus répandre. Non, non, pas une seule goutte. Jean Ziska ne remplira plus son calice que de pleurs inépuisables et de sanglots amers. En parlant ainsi, avec des yeux égarés et des traits animés par une exaltation soudaine, Albert tournait autour de Consuelo et reculait avec une sorte d'épouvante chaque fois qu'elle faisait un mouvement pour arrêter cette bizarre conjuration. Il ne fallut pas à Consuelo de longues réflexions pour comprendre la tournure que prenait la démence de son hôte. Elle s'était fait assez souvent raconter l'histoire de Jean Ziska pour savoir qu'une sœur de ce redoutable fanatique, religieuse avant l'explosion de la guerre hussite, avait péri de douleur et de honte dans son couvent, outragée par un moine abominable, et que la vie de Ziska avait été une longue et solennelle vengeance de ce crime. Dans ce moment, Albert, ramené par je ne sais quelle transition d'idées à sa fantaisie dominante, se croyait Jean Ziska, et s'adressait à elle comme à l'ombre de Wanda, sa sœur infortunée. Elle résolut de ne point contrarier brusquement son illusion. « Albert, lui dit-elle, car ton nom n'est plus Jean, de même que le mien n'est plus Wanda, regarde-moi bien, et reconnais que j'ai changé, ainsi que toi, de visage et de caractère. Ce que tu viens de me dire, je venais pour te le rappeler, oui. » Le temps du zèle et de la fureur est passé, la justice humaine n'est plus que satisfaite. Et c'est le jour de la justice divine que je t'annonce maintenant. Dieu nous commande le pardon et l'oubli. Ces souvenirs funestes, cette obstination à exercer en toi une faculté qu'il n'a point donnée aux autres hommes, cette mémoire scrupuleuse et farouche que tu gardes de tes existences antérieures, Dieu s'en offense et te la retire parce que tu en as abusé. M'entends-tu, Albert, et me comprends-tu maintenant ? Oh, ma mère, répondit Albert, pâle et tremblant, en tombant sur ses genoux et en regardant toujours Consuelo avec un effroi extraordinaire. Je vous entends et je comprends vos paroles. Je vois que vous vous transformez pour me convaincre et me soumettre. « Non, vous n'êtes plus la Wanda de Ziska, la vierge outragée, la religieuse gémissante. Vous êtes Wanda de Prachatitz, que les hommes ont appelée comtesse de Rudolfstadt, et qui a porté dans son sein l'infortuné qu'ils appellent aujourd'hui Albert. Ce n'est point par le caprice des hommes que vous vous appelez ainsi, reprit Consuelo avec fermeté, car c'est Dieu qui vous a fait revivre dans d'autres conditions. » Et avec de nouveaux devoirs. Ces devoirs, vous ne les connaissez pas, Albert, ou vous les méprisez. Vous remontez le cours des âges avec un orgueil impie. Vous aspirez à pénétrer les secrets de la destinée. Vous croyez vous égaler à Dieu en embrassant d'un coup d'œil et le présent et le passé. Moi, je vous le dis, et c'est la vérité, c'est la foi qui m'inspire. Cette pensée rétrograde est un crime, et une témérité. Cette mémoire surnaturelle que vous vous attribuez est une illusion. Vous avez pris quelques lueurs vagues et fugitives pour la certitude, et votre imagination vous a trompé. Votre orgueil a bâti un édifice de chimères lorsque vous vous êtes attribué les plus grands rôles dans l'histoire de vos ancêtres. Prenez garde de n'être point ce que vous croyez. Craignez que, pour vous punir, la science éternelle ne vous ouvre les yeux un instant et ne vous fasse voir dans votre vie antérieure des fautes moins illustres et des sujets de remords moins glorieux que ceux dont vous osez vous vanter. Albert écouta ce discours avec un recueillement craintif, le visage dans ses mains et les genoux enfoncés dans la terre. « Parlez, parlez, voix du ciel que j'entends et que je ne reconnais plus » murmura-t-il en accents étouffés. « Si vous êtes l'ange de la montagne, si vous êtes, comme je le crois, la figure céleste qui m'est apparue si souvent sur la pierre d'épouvante, parlez, commandez à ma volonté, à ma conscience, à mon imagination. Vous savez bien que je cherche la lumière avec angoisse, et que si je m'égare dans les ténèbres, c'est à force de vouloir les dissiper pour vous atteindre. » Un peu d'humilité, de confiance et de soumission aux arrêts éternels de la science incompréhensible, aux hommes, voilà le chemin de la vérité pour vous, Albert. Renoncez dans votre âme, et renoncez-y fermement une fois pour toutes à vouloir vous connaître au-delà de cette existence passagère qui vous est imposée. Et vous redeviendrez agréable à Dieu, utile aux autres hommes, tranquille avec vous-même. Abaissez votre science superbe, et sans perdre la foi à votre immortalité, sans douter de la bonté divine qui pardonne au passé et protège l'avenir, attachez-vous à rendre féconde et humaine cette vie présente que vous méprisez, lorsque vous devriez la respecter et vous y donner tout entier, avec votre force, votre abnégation et votre charité. Maintenant, Albert, regardez-moi, et que vos yeux soient dessillés. Je ne suis plus ni votre sœur, ni votre mère. Je suis une amie que le ciel vous a envoyée, et qu'il a conduite ici par des voies miraculeuses pour vous arracher à l'orgueil et à la démence. Regardez-moi, et dites-moi, dans votre âme et conscience, qui je suis et comment je m'appelle. » Albert, tremblant et éperdu, leva la tête et la regarda encore, mais avec moins d'égarement et de terreur que les premières fois. « Vous me faites franchir des abîmes, » lui dit-il. « Vous confondez par des paroles profondes ma raison, que je croyais supérieure, pour mon malheur, à celle des autres hommes, et vous m'ordonnez de connaître et de comprendre le temps présent et les choses humaines. Je ne le puis. Pour perdre la mémoire de certaines phases de ma vie, il faut que je subisse des crises terribles, et pour retrouver le sentiment d'une phase nouvelle, il faut que je me transforme par des efforts qui me conduisent à l'agonie. Si vous m'ordonnez, au nom d'une puissance que je sens supérieure à la mienne, d'assimiler ma pensée à la vôtre, il faut que j'obéisse. Mais je connais ces luttes épouvantables, et je sais que la mort est au bout. Ayez pitié de moi, vous qui agissez sur moi par un charme souverain. Aidez-moi ou je succombe. Dites-moi qui vous êtes, car je ne vous connais pas. Je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu. Je ne sais de quel sexe vous êtes. Et vous voilà devant moi comme une statue mystérieuse dont j'essaie vainement de retrouver le type dans mes souvenirs. Aidez-moi, aidez-moi, car je me sens mourir. » En parlant ainsi, Albert, dont le visage s'était d'abord coloré d'un éclat fébrile, redevint d'une pâleur effrayante. Il étendit les mains vers Consuelo, mais il les abaissa aussitôt vers la terre pour se soutenir, comme atteint d'une irrésistible défaillance. Consuelo, en s'initiant peu à peu au secret de sa maladie mentale, se sentit vivifié et comme inspiré par une force et une intelligence nouvelles. Elle lui prit les mains, et le forçant de se relever, elle le conduisit vers le siège qui était auprès de la table. Il s'y laissa tomber, accablé d'une fatigue inouïe, et se courba en avant comme s'il eût été prêt de s'évanouir. Cette lutte dont il parlait n'était que trop réelle. Albert avait la faculté de retrouver sa raison et de repousser les suggestions de la fièvre qui dévorait son cerveau. Mais il n'y parvenait pas sans des efforts et des souffrances qui épuisaient ses organes. Quand cette réaction s'opérait d'elle-même, il en sortait rafraîchi et comme renouvelé. Mais quand il la provoquait par une résolution de sa volonté encore puissante, son corps succombait sous la crise et la catalepsie s'emparait de tous ses membres. Consuelo comprit ce qui se passait en lui. « Albert !» lui dit-elle en posant sa main froide sur cette tête brûlante. « Je vous connais et cela suffit. Je m'intéresse à vous et cela doit vous suffire aussi. Quant à présent, je vous défends de faire aucun effort de volonté pour me reconnaître et me parler. Écoutez-moi seulement. Et si mes paroles vous semblent obscures, attendez que je m'explique et ne vous pressez pas d'en savoir le sens. Je ne vous demande qu'une soumission passive et l'abandon entier de votre réflexion. Pouvez-vous descendre dans votre cœur et y concentrer toute votre existence ? Oh, que vous me faites de bien ! Répondit Albert. Parlez-moi encore, parlez-moi toujours ainsi. Vous tenez mon âme dans vos mains. Qui que vous soyez, gardez-la et ne la laissez point s'échapper, car elle irait frapper aux portes de l'éternité et s'y briserait. Dites-moi qui vous êtes, dites-le-moi bien vite, et si je ne le comprends pas, expliquez-le-moi, car malgré moi, je le cherche et je m'agite. Je suis Consuelo, répondit la jeune fille, et vous le savez, puisque vous me parlez d'instinct une langue que seule autour de vous je puis comprendre. Je suis une amie que vous avez attendue longtemps et que vous avez reconnue un jour qu'elle chantait. Depuis ce jour-là, vous avez quitté votre famille et vous êtes venue vous cacher ici. Depuis ce jour, je vous ai cherchée. Et vous m'avez fait appeler par Zenko à diverses reprises, sans que Zenko, qui exécutait vos ordres à certains égards, ait voulu me conduire vers vous. J'y suis parvenue à travers 1000 dangers.
Vous n'avez pas pu y parvenir si Zenko ne l'a pas voulu, reprit Albert en soulevant son corps appesanti et affaissé sur la table. Vous êtes un rêve, je le vois bien, et tout ce que j'entends là se passe dans mon imagination. Oh, mon Dieu, vous me bercez de joie trompeuse. Et tout à coup, le désordre et l'incohérence de mes songes se révèlent à moi-même. Je me retrouve seul, seul au monde, avec mon désespoir et ma folie. Oh, Consuelo, Consuelo, rêve funeste et délicieux. Où est l'être qui porte ton nom et qui revêt parfois ta figure? Non, tu n'existes qu'en moi, et c'est mon délire qui t'a créé.
Albert retomba sur ses bras étendus, qui se raidirent et devinrent froids comme le marbre. Consuelo le voyait approcher de la crise léthargique, et se sentait elle-même si épuisée, si prête à défaillir, qu'elle craignait de ne pouvoir plus conjurer cette crise. Elle essaya de ranimer les mains d'Albert dans ses mains qui n'étaient guère plus vivantes. « Mon Dieu !» dit-elle d'une voix éteinte et avec un cœur brisé. « Assiste deux malheureux qui ne peuvent presque plus rien l'un pour l'autre !» Elle se voyait seule, enfermée avec un mourant, mourante elle-même, et ne pouvant plus attendre de secours pour elle et pour lui, que de Zenko, dont le retour lui semblait encore plus effrayant que désirable. Sa prière parut frapper Albert d'une émotion inattendue. « Quelqu'un prie à côté de moi !» dit-il en essayant de soulever sa tête accablée. « Je ne suis pas seul. Oh non, je ne suis pas seul !» ajouta-t-il en regardant la main de Consuelo enlacée aux siennes. « Main secourable, pitié mystérieuse, sympathie humaine, fraternelle, tu rends mon agonie bien douce et mon cœur bien reconnaissant. » Il colla ses lèvres glacées sur la main de Consuelo et resta longtemps ainsi. Une émotion pudique rendit à Consuelo le sentiment de la vie. Elle n'osa point retirer sa main à cet infortuné. Mais, partagée entre son embarras et son épuisement, ne pouvant plus se tenir debout, elle fut forcée de s'appuyer sur lui et de poser son autre main sur l'épaule d'Albert. « Je me sens renaître, » dit Albert au bout de quelques instants. « Il me semble que je suis dans les bras de ma mère.
Oh, ma tante Wenceslawa, si c'est vous qui êtes auprès de moi, pardonnez-moi de vous avoir oublié, vous et mon père, et toute ma famille, dont les noms même étaient sortis de ma mémoire. Je reviens à vous, ne me quittez pas, mais rendez-moi Consuelo, Consuelo, celle que j'avais tant attendue, celle que j'avais enfin trouvée, et que je ne retrouve plus, et sans qui je ne puis plus respirer. » Consuelo voulut lui parler, mais à mesure que la mémoire et la force d'Albert semblaient se réveiller, la vie de Consuelo semblait s'éteindre. Tant de frayeurs, de fatigues, d'émotions et d'efforts surhumains l'avaient brisée, qu'elle ne pouvait plus lutter. La parole expira sur ses lèvres. Elle sentit ses jambes fléchir, ses yeux se troubler. Elle tomba sur ses genoux à côté d'Albert, et sa tête mourante vint frapper le sein du jeune homme. Aussitôt, Albert, sortant comme d'un songe, la vit, la reconnut, poussa un cri profond, et, se ranimant, la pressa dans ses bras avec énergie. À travers les voiles de la mort qui semblaient s'étendre sur ses paupières, Consuelo vit sa joie et n'en fut point effrayée. C'était une joie sainte et rayonnante de chasteté. Elle ferma les yeux et tomba dans un état d'anéantissement qui n'était ni le sommeil ni la veille, mais une sorte d'indifférence et d'insensibilité pour toutes les choses présentes. Chapitre 44. Lorsqu'elle reprit l'usage de ses facultés, se voyant assise sur un lit assez dur et ne pouvant encore soulever ses paupières, elle essaya de rassembler ses souvenirs. Mais la prostration avait été si complète que ses facultés revinrent lentement. Et, comme si la somme de fatigues et d'émotions qu'elle avait supportées depuis un certain temps fût arrivée à dépasser ses forces, elle tenta vainement de se rappeler ce qu'elle était devenue depuis qu'elle avait quitté Venise. Son départ même de cette patrie adoptive, où elle avait coulé des jours si doux, lui apparut comme un songe. Et ce fut pour elle un soulagement, hélas trop court, de pouvoir douter un instant de son exil et des malheurs qu'il avait causés. Elle se persuada donc qu'elle était encore dans sa pauvre chambre de la Corte Minelli, sur le grabat de sa mère, et qu'après avoir eu avec Anzoletto une scène violente et amère dont le souvenir confus flottait dans son esprit, elle revenait à la vie et à l'espérance en le sentant près d'elle, en entendant sa respiration entrecoupée et les douces paroles qu'il lui adressait à voix basse. Une joie languissante et pleine de délices pénétra son cœur à cette pensée. Et elle se souleva avec effort pour regarder son ami repentant et pour lui tendre la main. Mais elle ne pressa qu'une main froide et inconnue. Et au lieu du riant soleil qu'elle était habituée à voir briller, couleur de rose, à travers son rideau blanc, elle ne vit qu'une clarté sépulcrale, tombant d'une voûte sombre et nageant dans une atmosphère humide. Elle sentit sous ses bras la rude dépouille des animaux sauvages, et, dans un horrible silence, la pâle figure d'Albert se pencha vers elle comme un spectre. Consuelo se crut descendue vivante dans le tombeau. Elle ferma les yeux et retomba sur le lit de feuilles sèches avec un douloureux gémissement. Il lui fallut encore plusieurs minutes pour comprendre où elle était et à quelle hôte sinistre elle se trouvait confiée. La peur que l'enthousiasme de son dévouement avait combattu et dominé jusque-là s'empara d'elle, au point qu'elle craignit de rouvrir les yeux et de voir quelque affreux spectacle, des apprêts de mort à un sépulcre ouvert devant elle. Elle sentit quelque chose sur son front et y porta la main. C'était une guirlande de feuillage dont Albert l'avait couronnée. Elle l'ôta pour la regarder et vit une branche de cyprès. « Je t'ai cru morte, ô mon âme, ô ma consolation !» lui dit Albert en s'agenouillant auprès d'elle. « Et j'ai voulu, avant de te suivre dans le tombeau, te parer des emblèmes de l'hyménée. Les fleurs ne croissent point autour de moi, Consuelo. Les noirs cyprès étaient le seul rameau où ma main put cueillir ta couronne de fiancée. La voilà, ne la repousse pas. Si nous devons mourir ici, laisse-moi te jurer que, rendue à la vie, je n'aurai jamais eu d'autre épouse que toi, et que je meurs avec toi, unie à toi par un serment indissoluble.
Fiancée ? Unie ?
S'écria Consuelo, terrifiée, en jetant des regards consternés autour d'elle. « Qui donc a prononcé cet arrêt ? Qui donc a célébré cet hyménée ?»«
C'est la destinée, mon ange, »
répondit Albert avec une douceur et une tristesse inexprimables. « Ne songe pas à t'y soustraire. C'est une destinée bien étrange pour toi, et pour moi encore plus. Tu ne me comprends pas, Consuelo, et il faut pourtant que tu apprennes la vérité. Tu m'as défendu tout à l'heure de chercher dans le passé. Tu m'as interdit le souvenir de ces jours écoulés qu'on appelle la nuit des siècles. Mon être t'a obéi, et je ne sais plus rien désormais de ma vie antérieure. Mais ma vie présente, je l'ai interrogée, je la connais. Je l'ai vue tout entière d'un regard. Elle m'est apparue en un instant pendant que tu reposais dans les bras de la mort. Ta destinée, Consuelo, est de m'appartenir. Et cependant, tu ne seras jamais à moi. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimeras jamais comme je t'aime. Ton amour pour moi n'est que de la charité, ton dévouement de l'héroïsme. Tu es une sainte que Dieu m'envoie, et jamais tu ne seras une femme pour moi. Je dois mourir consumée d'un amour que tu ne peux partager. Et cependant, Consuelo, tu seras mon épouse, comme tu es déjà ma fiancée. Soit que nous périssions ici, et que ta pitié consente à me donner ce titre d'époux qu'un baiser ne doit jamais sceller, soit que nous revoyons le soleil, et que ta conscience t'ordonne d'accomplir les desseins de Dieu envers moi.
Comte Albert, dit Consuelo en essayant de quitter ce lit couvert de peaux d'ours noirs qui ressemblait à un drap mortuaire. Je ne sais si c'est l'enthousiasme d'une reconnaissance trop vive, ou la suite de votre délire qui vous fait parler ainsi. Je n'ai plus la force de combattre vos illusions. Et si elles doivent se tourner contre moi qui suis venue, au péril de ma vie, vous secourir et vous consoler, je sens que je ne pourrai plus vous disputer ni mes jours ni ma liberté. Si ma vue vous irrite, et si Dieu m'abandonne, que la volonté de Dieu soit faite. Vous qui croyez savoir tant de choses, vous ne savez pas combien ma vie est empoisonnée, et avec combien peu de regrets j'en ferai le sacrifice.
Je sais que tu es bien malheureuse, ô ma pauvre sainte. Je sais que tu portes au front une couronne d'épines que je ne puis en arracher. La cause et la suite de tes malheurs, je les ignore, et je ne te les demande pas. Mais je t'aimerai bien peu. Je serai bien peu digne de ta compassion si... Dès le jour où je t'ai rencontré, je n'avais pas pressenti et reconnu en toi la tristesse qui remplit ton âme et abreuve ta vie. Que peux-tu craindre de moi, Consuelo de mon âme? Toi, si ferme et si sage, toi qui Dieu a inspiré des paroles qui m'ont subjugué et ranimé en un instant. Tu sens donc défaillir étrangement la lumière de ta foi et de ta raison, puisque tu redoutes ton ami, ton serviteur et ton esclave. Reviens à toi, mon ange, regarde-moi. Me voici à tes pieds, et pour toujours le front dans la poussière. Que veux-tu? Qu'ordonnes-tu? Veux-tu sortir d'ici à l'instant même, sans que je te suive, sans que je reparaisse jamais devant toi? Quel sacrifice exiges-tu? Quel serment veux-tu que je te fasse? Je puis te promettre tout et t'obéir en tout. Oui, Consuelo, je peux même devenir un homme tranquille, soumis et en apparence aussi raisonnable que les autres. Est-ce ainsi que je te serai moins amer et moins effrayant? Jusqu'ici, je n'ai jamais pu ce que j'ai voulu, mais tout ce que tu voudras désormais me sera accordé. Je mourrai peut-être en me transformant selon ton désir, mais c'est à mon tour de te dire que ma vie a toujours été empoisonnée et que je ne pourrai pas la regretter en la perdant pour toi. « Cher et généreux Albert, dit Consuelo, rassuré et attendri, expliquez-vous mieux et faites enfin que je connaisse le fond de cette belle âme impénétrable. Vous êtes à mes yeux un homme supérieur à tous les autres. Et dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai senti pour vous un respect et une sympathie que je n'ai point de raison pour vous dissimuler. J'ai toujours entendu dire que vous étiez insensé. Je n'ai pas pu le croire. Tout ce qu'on me racontait de vous ajoutait à mon estime et à ma confiance. Cependant, il m'a bien fallu reconnaître que vous étiez accablé d'un mal moral profond et bizarre. Je me suis, présomptueusement peut-être, mais naïvement persuadé que je pouvais adoucir ce mal. Vous-même avez travaillé à me le faire croire. Je suis venu vous trouver. Et voilà que vous me dites sur moi et sur vous-même des choses d'une profondeur et d'une vérité qui me rempliraient d'une vénération sans bornes si vous n'y mêliez des idées étranges, empreintes d'un esprit de fatalisme que je ne saurais partager. Dirais-je tout sans vous blesser et sans vous faire souffrir? Dites tout, Consuelo. Je sais d'avance ce que vous avez à me dire. Eh bien, je le dirai, car je me l'étais promis. Tous ceux qui vous aiment désespèrent de vous. Ils croient devoir respecter, c'est-à-dire ménager, ce qu'ils appellent votre démence. Ils craignent de vous exaspérer en vous laissant voir qu'ils la connaissent, la plaignent et la redoutent. Moi, je n'y crois pas. Et je ne puis trembler en vous demandant pourquoi, étant si sage, vous avez parfois les dehors d'un insensé. Pourquoi, étant si bon, vous faites les actes de l'ingratitude et de l'orgueil? Pourquoi, étant si éclairé et si religieux, vous vous abandonnez aux rêveries d'un esprit malade et désespéré? Pourquoi, enfin, vous voilà seul, enseveli vivant dans un caveau lugubre, loin de votre famille qui vous cherche et vous pleure, loin de vos semblables que vous chérissez avec un zèle ardent, loin de moi, enfin, que vous appeliez, que vous dites aimer, et qui n'ait pu parvenir jusqu'à vous sans des miracles de volonté et une protection divine? Vous me demandez le secret de ma vie, le mot de ma destinée, et vous le savez mieux que moi, Consuelo. C'est de vous que j'attendais la révélation de mon être, et vous m'interrogez. Oh, je vous comprends. Vous voulez m'amener à une confession, à un repentir efficace, à une résolution victorieuse. Vous serez obéi. Mais ce n'est pas à l'instant même que je puis me connaître, me juger et me transformer de la sorte. Donnez-moi quelques jours, quelques heures du moins, pour vous apprendre et pour m'apprendre à moi-même si je suis fou ou si je jouis de ma raison. Hélas, hélas, l'un et l'autre sont vrais, et mon malheur est de n'en pouvoir douter. Mais de savoir si je dois perdre entièrement le jugement et la volonté, ou si je puis triompher du démon qui m'obsède, voilà ce que je ne puis en cet instant. Prenez pitié de moi, Consuelo. Je suis encore sous le coup d'une émotion plus puissante que moi-même. J'ignore ce que je vous ai dit. J'ignore combien d'heures se sont écoulées depuis que vous êtes ici. J'ignore comment vous pouvez y être sans Zenko, qui ne voulait pas vous y amener. J'ignore même dans quel monde erraient mes pensées quand vous m'êtes apparu. Hélas! J'ignore depuis combien de siècles je suis enfermée ici, luttant avec des souffrances inouïes contre le fléau qui me dévore. Ces souffrances, je n'en ai même plus conscience quand elles sont passées. Il ne m'en reste qu'une fatigue terrible, une stupeur, et comme un effroi que je voudrais chasser. Consuelo, laissez-moi m'oublier, ne fût-ce que pour quelques instants. Mes idées s'éclairciront, ma langue se déliera. Je vous le promets, je vous le jure. Ménagez-moi cette lumière de la réalité longtemps éclipsée dans d'affreuses ténèbres et que mes yeux ne peuvent soutenir encore. Vous m'avez ordonné de concentrer toute ma vie dans mon cœur. Oui, vous m'avez dit cela. Ma raison et ma mémoire ne datent plus que du moment où vous m'avez parlé. Eh bien, cette parole a fait descendre un calme angélique dans mon sein. Mon cœur vit tout entier maintenant, quoique mon esprit sommeille encore. Je crains de vous parler de moi. Je pourrais m'égarer et vous effrayer encore par mes rêveries. Je veux ne vivre que par le sentiment, et c'est une vie inconnue pour moi. Ce serait une vie de délices si je pouvais m'y abandonner sans vous déplaire. Ah, Consuelo, Pourquoi m'avez-vous dit de concentrer toute ma vie dans mon cœur? Expliquez-vous vous-même. Laissez-moi ne m'occuper que de vous, ne voir et ne comprendre que vous. Aimez, enfin, ô mon Dieu, j'aime un être vivant, semblable à moi. Je l'aime de toute la puissance de mon être. Je puis concentrer sur lui toute l'ardeur, toute la sainteté de mon affection. C'est bien assez de bonheur pour moi comme cela, et je n'ai pas la folie de demander davantage. Eh bien, cher Albert, reposez votre pauvre âme dans ce doux sentiment d'une tendresse paisible et fraternelle. Dieu m'est témoin que vous le pouvez, sans crainte et sans danger, car je sens pour vous une amitié fervente, une sorte de vénération que les discours frivoles et les vains jugements du vulgaire ne sauraient ébranler. Vous avez compris, par une sorte d'intuition divine et mystérieuse, que ma vie était brisée par la douleur. Vous l'avez dit, et c'est la vérité suprême qui a mis cette parole dans votre bouche. Je ne puis pas vous aimer autrement que comme un frère. Mais ne dites pas que c'est la charité, la pitié seule qui me guide. Si l'humanité et la compassion m'ont donné le courage de venir ici, une sympathie, une estime particulière pour vos vertus me donnent aussi le courage et le droit de vous parler comme je fais. Abjurez donc dès à présent, et pour toujours, l'illusion où vous êtes sur votre propre sentiment. Ne parlez pas d'amour, ne parlez pas d'Hyménée. Mon passé, mes souvenirs rendent le premier impossible. La différence de nos conditions rendrait le second humiliant et inacceptable pour moi. En revenant sur de telles rêveries, vous rendriez mon dévouement pour vous téméraire, coupable peut-être. Scellons par une promesse sacrée cet engagement que je prends d'être votre sœur, votre amie, votre consolatrice, quand vous serez disposée à m'ouvrir votre cœur, votre garde-malade quand la souffrance vous rendra sombre et taciturne. Jurez que vous ne verrez pas en moi autre chose et que vous ne m'aimerez pas autrement. « Femme généreuse !» dit Albert en pâlissant. « Tu comptes bien sur mon courage et tu connais bien mon amour en me demandant une pareille promesse. Je serai capable de mentir pour la première fois de ma vie. Je pourrais m'avilir jusqu'à prononcer un faux serment si tu l'exigeais de moi. Mais tu ne l'exigeras pas, Consuelo. Tu comprendras que ce serait mettre dans ma vie une agitation nouvelle et dans ma conscience un remords qui ne l'a pas encore souillé. Ne t'inquiète pas de la manière dont je t'aime. Je l'ignore tout le premier. Seulement, je sens que retirer le nom d'amour à cette affection serait dire un blasphème. Je me soumets à tout le reste. J'accepte ta pitié, tes soins, ta bonté, ton amitié paisible. Je ne te parlerai que comme tu le permettras. Je ne te dirai pas une seule parole qui te trouble. Je n'aurai pas pour toi un seul regard qui doive faire baisser tes yeux. Je ne toucherai jamais ta main si le contact de la mienne te déplaît. Je n'effleurerai pas même ton vêtement si tu crains d'être flétri par mon souffle. Mais tu aurais tort de me traiter avec cette méfiance, et tu ferais mieux d'entretenir en moi cette douceur d'émotion qui me vivifie et dont tu ne peux rien craindre. Je comprends bien que ta pudeur s'alarmerait de l'expression d'un amour que tu ne veux point partager. Je sais que ta fierté repousserait les témoignages d'une passion que tu ne veux ni provoquer ni encourager. Sois donc tranquille, et jure sans crainte d'être ma sœur et ma consolatrice. Je jure d'être ton frère et ton serviteur. Ne m'en demande pas davantage. Je ne serai ni indiscret ni importun. Il me suffira que tu saches que tu peux me commander et me gouverner despotiquement, comme on ne gouverne pas un frère, mais comme on dispose d'un être qui s'est donné à vous tout entier et pour toujours. Chapitre 45. Ce langage rassurait Consuelo sur le présent, mais ne la laissait pas sans appréhension pour l'avenir. L'abnégation fanatique d'Albert prenait sa source dans une passion profonde et invincible, sur laquelle le sérieux de son caractère et l'expression solennelle de sa physionomie ne pouvaient laisser aucun doute. Consuelo, interdite, quoique doucement émue, se demandait si elle pourrait continuer à consacrer ses soins à cet homme épris d'elle sans réserve et sans détour. Elle n'avait jamais traité légèrement dans sa pensée ces sortes de relations, et elle voyait qu'avec Albert, aucune femme n'eût pu les braver sans de graves conséquences. Elle ne doutait ni de sa loyauté, ni de ses promesses. Mais le calme qu'elle s'était flattée de lui rendre devait être inconciliable avec un amour si ardent, et l'impossibilité où elle se voyait d'y répondre. Elle lui tendit la main en soupirant et resta pensive, les yeux attachés à terre, plongée dans une méditation mélancolique. « Albert, lui dit-elle enfin en relevant ses regards sur lui et en trouvant les siens remplis d'une attente pleine d'angoisse et de douleur. « Vous ne me connaissez pas, quand vous voulez me charger d'un rôle qui me convient si peu. Une femme capable d'en abuser serait seule capable de l'accepter. Je ne suis ni coquette ni orgueilleuse, je ne crois pas être vaine, et je n'ai aucun esprit de domination. Votre amour me flatterait si je pouvais le partager, et si cela était, je vous le dirais tout de suite. Vous affligez par l'assurance réitérée du contraire, est, dans la situation où je me trouve, un acte de cruauté froide que vous auriez bien dû m'épargner, et qui m'est cependant imposé par ma conscience, quoique mon cœur le déteste et se déchire en l'accomplissant. Plaignez-moi d'être forcé de vous affliger, de vous offenser peut-être, en un moment où je voudrais donner ma vie pour vous rendre le bonheur et la santé. « Je le sais, enfant sublime !» répondit Albert avec un triste sourire. « Tu es si bonne et si grande que tu donnerais ta vie pour le dernier des hommes. Mais ta conscience, je sais bien qu'elle ne pliera pour personne. Ne crains donc pas de m'offenser en me dévoilant cette rigidité que j'admire, cette froideur stoïque que ta vertu conserve au milieu de la plus touchante pitié. Quant à m'affliger, cela n'est pas en ton pouvoir, Consuelo. Je ne me suis point fait d'illusions. Je suis habituée aux plus atroces douleurs. Je sais que ma vie est dévouée aux sacrifices les plus cuisants. Ne me traite donc pas comme un homme faible, comme un enfant sans cœur et sans fierté, en me répétant ce que je sais du reste, que tu n'auras jamais d'amour pour moi. Je sais toute ta vie, Consuelo. Bien que je ne connaisse ni ton nom, ni ta famille, ni aucun fait matériel qui te concerne. Je sais l'histoire de ton âme. Le reste ne m'intéresse pas. Tu as aimé, tu aimes encore, et tu aimeras toujours un être dont je ne sais rien, dont je ne veux rien savoir, et auquel je ne te disputerai que si tu me l'ordonnes. Mais sache, Consuelo, que tu ne seras jamais ni à lui, ni à moi, ni à toi-même. Dieu t'a réservé une existence à part, dont je ne cherche ni ne prévois les circonstances, mais dont je connais le but et la fin. Esclave et victime de ta grandeur d'âme, tu n'en recueilleras jamais d'autre récompense en cette vie que la conscience de ta force et le sentiment de ta bonté. Malheureuse, au dire du monde, tu seras, en dépit de tout, la plus calme et la plus heureuse des créatures humaines, parce que tu seras toujours la plus juste et la meilleure. Car les méchants et les lâches sont seuls à plaindre, ô ma sœur chérie, et la parole du Christ sera vraie, tant que l'humanité sera injuste et aveugle. Heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui pleurent et qui travaillent dans la peine. La force et la dignité qui rayonnaient sur le front large et majestueux d'Albert exercèrent en ce moment une si puissante fascination sur Consuelo qu'elle oublia ce rôle de fière souveraine et d'amie austère qui lui était imposé pour se courber sous la puissance de cet homme inspiré par la foi et l'enthousiasme. Elle se soutenait à peine, encore brisée par la fatigue et toute vaincue par l'émotion. Elle se laissa glisser sur ses genoux, déjà pliée par l'engourdissement de la lassitude, et, joignant les mains, elle se mit à prier tout haut, avec effusion. « Si c'est toi, mon Dieu, s'écria-t-elle, qui met cette prophétie dans la bouche d'un saint, que ta volonté soit faite et qu'elle soit bénie. Je t'ai demandé le bonheur dans mon enfance, sous une face riante et puérile. Tu me le réservais sous une face rude et sévère que je ne pouvais pas comprendre. Fais que mes yeux s'ouvrent et que mon cœur se soumette. Cette destinée qui me semblait si injuste et qui se révèle peu à peu, je saurai l'accepter, mon Dieu, et ne te demander que ce que l'homme a le droit d'attendre de ton amour et de ta justice, la foi, l'espérance et la charité. » En priant ainsi, Consuelo se sentit baignée de larmes. Elle ne chercha point à les retenir. Après tant d'agitation et de fièvre, elle avait besoin de cette crise qui la soulagea en l'affaiblissant encore. Albert pria et pleura avec elle, en bénissant ses larmes qu'il avait si longtemps versées dans la solitude et qui se mêlaient enfin à celles d'un être généreux et pur. « Et maintenant, lui dit Consuelo en se relevant, c'est assez penser à nous-mêmes. Il est temps de nous occuper des autres et de nous rappeler nos devoirs. J'ai promis de vous ramener à vos parents, qui gémissent dans la désolation et qui déjà prient pour vous comme pour un mort. Ne voulez-vous pas leur rendre le repos et la joie, mon cher Albert? Ne voulez-vous pas me suivre? » Déjà ? S'écria le jeune comte avec amertume. Déjà nous séparer ? Déjà quitter cet asile sacré où Dieu seul est entre nous ? Cette cellule que je chéris depuis que tu m'y es apparu ? Ce sanctuaire d'un bonheur que je ne retrouverai peut-être jamais pour rentrer dans la vie froide et fausse des préjugés et des convenances ? Pas encore, mon âme, ma vie, encore un jour, encore un siècle de délices. Laisse-moi oublier ici qu'il existe un monde de mensonges et d'iniquités qui me poursuit comme un rêve funeste. Laisse-moi revenir lentement et par degrés à ce qu'ils appellent la raison. Je ne me sens pas encore assez fort pour supporter la vue de leur soleil et le spectacle de leur démence. J'ai besoin de te contempler et de t'écouter encore. D'ailleurs, je n'ai jamais quitté ma retraite par une résolution soudaine et sans de longues réflexions. Ma retraite, affreuse et bienfaisante, lieu d'expiation terrible et salutaire, où j'arrive en courant et sans détourner la tête, où je me plonge avec une joie sauvage et dont je m'éloigne toujours avec des hésitations trop fondées et des regrets trop durables. Tu ne sais pas quel lien puissant m'attache à cette prison volontaire, Consuelo. Tu ne sais pas qu'il y a ici un moi que j'y laisse et qui est le véritable Albert et qui n'en saurait sortir. Un moi que j'y retrouve toujours et dont le spectre me rappelle et m'obsède quand je suis ailleurs. Ici est ma conscience, ma foi, ma lumière, ma vie sérieuse en un mot. J'y apporte le désespoir, la peur, la folie. Elle s'y acharne souvent après moi et m'y livre une lutte effroyable. Mais vois-tu, derrière cette porte, il y a un tabernacle où je les dompte et où je me retrempe. J'y entre souillé et assailli par le vertige. J'en sors purifié. Et nul ne sait au prix de quelle torture j'en rapporte la patience et la soumission. Ne m'arrache pas d'ici, Consuelo. Permets que je m'en éloigne à pas lents et après avoir prié. Entrons-y et prions ensemble, dit Consuelo. Nous partirons aussitôt après. L'heure s'avance, le jour est peut-être près de paraître. Il faut qu'on ignore le chemin qui vous ramène au château. Il faut qu'on ne nous voie pas rentrer. Il faut peut-être aussi qu'on ne nous voie pas rentrer ensemble. Car je ne veux pas trahir le secret de votre retraite, Albert. Et jusqu'ici, nul ne se doute de ma découverte. Je ne veux pas être interrogé. Je ne veux pas mentir. Il faut que j'aie le droit de me renfermer dans un respectueux silence vis-à-vis de vos parents et de leur laisser croire que mes promesses n'étaient que des pressentiments et des rêves. Si on me voyait revenir avec vous, ma discrétion passerait pour de la révolte. Et quoique je sois capable de tout braver pour vous, Albert, je ne veux pas sans nécessité m'aliéner la confiance et l'affection de votre famille. Hâtons-nous donc, je suis épuisé de fatigue. Et si je demeurais plus longtemps ici, je pourrais perdre le reste de force dont j'ai besoin pour faire ce nouveau trajet. Allons, priez, vous dis-je, et partons.
Tu es épuisée de fatigue, repose-toi donc ici, ma bien-aimée. Dors, je veillerai sur toi religieusement. Ou si ma présence t'inquiète, tu m'enfermeras dans la grotte voisine. Tu mettras cette porte de fer entre toi et moi. Et tant que tu ne me rappelleras pas, je prierai pour toi dans mon église. Et pendant que vous prierez, et pendant que je me livrerai au repos, votre père subira encore de longues heures d'agonie, pâle et immobile, comme je l'ai vu une fois, courbé sous la vieillesse et la douleur, pressant de ses genoux affaiblis le pavé de son oratoire, et semblant attendre que la nouvelle de votre mort vienne lui arracher son dernier souffle. Et votre pauvre tante s'agitera dans une sorte de fièvre à monter sur tous les donjons pour vous chercher des yeux sur les sentiers de la montagne. Et ce matin encore, on s'abordera dans le château, et on se séparera le soir avec le désespoir dans les yeux et la mort dans l'âme. Albert, vous n'aimez donc pas vos parents, puisque vous les faites languir et souffrir ainsi, sans pitié ou sans remords.
Consuelo, Consuelo, s'écria Albert en paraissant sortir d'un songe. Ne parle pas ainsi, tu me fais un mal affreux. Quel crime ai-je donc commis? Quel désastre ai-je donc causé? Pourquoi sont-ils si inquiets? Combien d'heures se sont donc écoulées depuis celle où je les ai quittées?
Vous demandez combien d'heures? Demandez combien de jours, combien de nuits, et presque combien de semaines?
Des jours? Des nuits? Taisez-vous, Consuelo, ne m'apprenez pas mon malheur. Je savais bien que je perdais ici la juste notion du temps, et que la mémoire de ce qui se passe sur la face de la terre ne descendait point dans ce sépulcre. Mais je ne croyais pas que la durée de cet oubli et de cette ignorance pût être comptée par jour et par semaine.
N'est-ce pas un oubli volontaire, mon ami? Rien ne vous rappelle ici les jours qui s'effacent et se renouvellent. D'éternelles ténèbres y entretiennent la nuit. Vous n'avez même pas, je crois, un sablier pour compter les heures. Ce soin d'écarter les moyens de mesurer le temps n'est-il pas une précaution farouche pour échapper aux cris de la nature et aux reproches de la conscience?
Je l'avoue, j'ai besoin d'abjurer, quand je viens ici, tout ce qu'il y a en moi de purement humain. Mais je ne savais pas, mon Dieu, que la douleur et la méditation puissent absorber mon âme au point de me faire paraître indistinctement les heures longues comme des jours ou les jours rapides comme des heures. Quel homme suis-je donc, et comment ne m'a-t-on jamais éclairé sur cette nouvelle disgrâce de mon organisation? Cette disgrâce est, au contraire, la preuve d'une grande puissance intellectuelle, mais détournée de son emploi et consacrée à de funestes préoccupations. On s'est imposé de vous cacher les maux dont vous êtes la cause. On a cru devoir respecter votre souffrance en vous taisant celle d'autrui. Mais selon moi, c'était vous traiter avec trop peu d'estime, c'était douter de votre cœur. Et moi qui n'en doute pas, Albert, je ne vous cache rien.
Partons, Consuelo, partons, dit Albert en jetant précipitamment son manteau sur ses épaules. Je suis un malheureux, j'ai fait souffrir mon père que j'adore, ma tante que je chéris. Je suis à peine digne de les revoir. Ah! Plutôt que de renouveler de pareilles cruautés, je m'imposerai le sacrifice de ne jamais revenir ici. Mais non, je suis heureux, car j'ai rencontré un cœur ami pour m'avertir et me réhabiliter. Quelqu'un enfin m'a dit la vérité sur moi-même, et me la dira toujours, n'est-ce pas, ma sœur chérie?
Toujours, Albert, je vous le jure.
Bonté divine, et l'être qui vient à mon secours est celui-là seul que je puisse écouter et croire. Dieu sait ce qu'il fait. Ignorant ma folie, j'ai toujours accusé celle des autres. Hélas, mon noble père lui-même m'aurait appris ce que vous venez de m'apprendre, Consuelo, que je ne l'aurais pas cru. C'est que vous êtes la vérité et la vie. C'est que vous seul pouvez porter en moi la conviction et donner à mon esprit troublé la sécurité céleste qui émane de vous.
Partons, dit Consuelo en l'aidant à agrafer son manteau, que sa main convulsive et distraite ne pouvait fixer sur son épaule.
« Oui, partons, »
dit-il en la regardant d'un œil attendri remplir ce soin amical. Mais auparavant, jure-moi, Consuelo, que si je reviens ici, tu ne m'y abandonneras pas. Jure que tu viendras m'y chercher encore, fût-ce pour m'accabler de reproches, pour m'appeler ingrat, parricide, et me dire que je suis indigne de ta sollicitude. Oh, ne me laisse plus en proie à moi-même. Tu vois bien que tu as tout pouvoir sur moi, et qu'un mot de ta bouche me persuade et me guérit mieux que ne feraient des siècles de méditation et de prière. Vous allez me jurer, vous ? Lui répondit Consuelo en appuyant sur ses deux épaules ses mains enhardies par l'épaisseur du manteau et en lui souriant avec expansion. « De ne jamais revenir ici sans moi. »« Tu y reviendras donc avec moi » s'écria-t-il en la regardant avec ivresse, mais sans oser l'entourer de ses bras. « Jure-le-moi, et moi je fais le serment de ne jamais quitter le toit de mon père sans ton ordre ou ta permission. » « Eh bien, que Dieu entende et reçoive cette mutuelle promesse !» répondit Consuelo, transporté de joie. « Nous reviendrons prier dans votre église, Albert, et vous m'enseignerez à prier, car personne ne me l'a appris, et j'ai de connaître Dieu un besoin qui me consume. Vous me révélerez le ciel, mon ami, et moi je vous rappellerai, quand il le faudra, les choses terrestres et les devoirs de la vie humaine. » « Divine sœur, dit Albert, les yeux noyés de larmes délicieuses. Va, je n'ai rien à t'apprendre, et c'est toi qui dois me confesser, me connaître et me régénérer. C'est toi qui m'enseigneras tout, même la prière. Ah, je n'ai plus besoin d'être seule pour élever mon âme à Dieu. Je n'ai plus besoin de me prosterner sur les ossements de mes pères pour comprendre et sentir l'immortalité. Il me suffit de te regarder. Pour que mon âme vivifiée monte vers le ciel, comme un hymne de reconnaissance et un encens de purification. » Consuelo l'entraîna. Elle-même ouvrit et referma les portes. « À moi, cinabre !» dit Albert à son fidèle compagnon en lui présentant une lanterne, mieux construite que celle dont s'était muni Consuelo, et mieux appropriée au genre de voyage qu'elle devait protéger. L'animal intelligent, pris d'un air de fierté satisfaite, lance du fanal et se mit à marcher en avant d'un pas égal, s'arrêtant chaque fois que son maître s'arrêtait, hâtant ou ralentissant son allure au gré de la sienne et gardant le milieu du chemin, pour ne jamais compromettre son précieux dépôt en le heurtant contre les rochers et les broussailles. Consuelo avait bien de la peine à marcher, elle se sentait brisée, et sans le bras d'Albert, qui la soutenait et l'enlevait à chaque instant, elle serait tombée 10 fois. Ils redescendirent ensemble le courant de la source, en côtoyant ses marges gracieuses et fraîches. « C'est Zenko, lui dit Albert, qui soigne avec amour la naïade de ces grottes mystérieuses. Il aplanit son lit souvent encombré de gravier et de coquillages. Il entretient les pâles fleurs qui naissent sous ses pas et les protège contre ses embrassements parfois un peu rudes. » Consuelo regarda le ciel à travers les fentes du rocher. Elle vit briller une étoile. « C'est Abdelbaram, l'étoile des Ingari, » lui dit Albert. « Le jour ne paraîtra que dans 1 heure. »« C'est mon étoile, » répondit Consuelo, « car je suis, non de race, mais de condition, une sorte de Zingara, mon cher comte. Ma mère ne portait pas d'autre nom à Venise, » quoiqu'elle se révoltât contre cette appellation, injurieuse selon ses préjugés espagnols. Et moi, j'étais, je suis encore connue dans ce pays-là, sous le titre de Zingarella. Que n'es-tu en effet un enfant de cette race persécutée ? Répondit Albert. Je t'aimerais encore davantage s'il était possible. Consuelo, qui avait cru bien faire en rappelant au comte de Rudolfstadt la différence de leurs origines et de leurs conditions, se souvint de ce qu'Amélie lui avait appris des sympathies d'Albert pour les pauvres et les vagabonds. Elle craignit de s'être abandonnée involontairement à un sentiment de coquetterie instinctive et garda le silence. Mais Albert le rompit au bout de quelques instants. « Ce que vous venez de m'apprendre, dit-il, a réveillé en moi, par je ne sais quel enchaînement d'idées, un souvenir de ma jeunesse, assez puéril, mais qu'il faut que je vous raconte, parce que, depuis que je vous ai vu, il s'est présenté plusieurs fois à ma mémoire avec une sorte d'insistance. Appuyez-vous sur moi davantage pendant que je vous parlerai, chère sœur. » J'avais environ 15 ans. Je revenais seule un soir par un des sentiers qui côtoient le Schreckenstein et qui serpentent sur les collines dans la direction du château. Je vis devant moi une femme, grande et maigre, misérablement vêtue, qui portait un fardeau sur ses épaules et qui s'arrêtait de roche en roche pour s'asseoir et reprendre haleine. Je l'abordai. Elle était belle, quoique hâlée par le soleil et flétrie par la misère et le souci. Il y avait sous ses haillons une sorte de fierté douloureuse. Et lorsqu'elle me tendit la main, elle eut l'air de commander à ma pitié plutôt que de l'implorer. Je n'avais plus rien dans ma bourse, et je la priai de venir avec moi jusqu'au château, où je pourrais lui offrir des secours, des aliments et un gîte pour la nuit. « Je l'aime mieux ainsi, » me répondit-elle avec un accent étranger que je pris pour celui des vagabonds égyptiens, car je ne savais pas à cette époque les langues que j'ai apprises depuis dans mes voyages. « Je pourrais, » ajouta-t-elle, « vous payer l'hospitalité que vous m'offrez, en vous faisant entendre quelques chansons des divers pays que j'ai parcourus. Je demande rarement l'aumône. Il faut que j'y sois forcée par une extrême détresse. « Pauvre femme, lui dis-je, vous portez un fardeau bien lourd. Vos pauvres pieds presque nus sont blessés. Donnez-moi ce paquet. Je le porterai jusqu'à ma demeure et vous marcherez plus librement. » « Ce fardeau devient tous les jours plus pesant, » répondit-elle avec un sourire mélancolique qui l'embellit tout à fait. « Mais je ne m'en plains pas, je le porte depuis plusieurs années, et j'ai fait des centaines de lieues avec lui sans regretter ma peine. Je ne le confie jamais à personne. Mais vous avez l'air d'un enfant si bon que je vous le prêterai jusque là-bas. » À ces mots, elle ôta la grave du manteau qui la couvrait tout entière et qui ne laissait passer que le manche de sa guitare. Je vis alors un enfant de 5 à 6 ans, pâle et hâlé comme sa mère, mais d'une physionomie douce et calme qui me remplit le cœur d'attendrissement. C'était une petite fille, toute déguenillée, maigre mais forte, et qui dormait du sommeil des anges sur ce dos brûlant et brisé de la chanteuse ambulante. Je la pris dans mes bras, et j'eus bien de la peine à les garder, car, en s'éveillant et en se voyant sur un sein étranger, elle se débattit et pleura. Mais sa mère lui parla dans sa langue pour la rassurer. Mes caresses et mes soins la consolèrent, et nous étions les meilleurs amis du monde en arrivant au château. Quand la pauvre femme eut soupé, elle coucha son enfant dans un lit que je lui avais fait préparer, fit une espèce de toilette bizarre, plus triste encore que ses haillons, et vint dans la salle où nous mangions, chanter des romances espagnoles, françaises et allemandes, avec une belle voix, un accent ferme et une franchise de sentiments qui nous charmèrent. Ma bonne tante eut pour elle 1000 soins et 1000 attentions. Elle y parut sensible, mais ne dépouilla pas sa fierté et ne fit à nos questions que des réponses évasives. Son enfant m'intéressait plus qu'elle encore. J'aurais voulu le revoir, l'amuser et même le garder. Je ne sais quelle tendre sollicitude s'éveillait en moi pour ce pauvre petit être, voyageur et misérable sur la terre. Je rêvais de lui toute la nuit, et dès le matin, je courus pour le voir. Mais déjà, la Zingara était partie, et je gravis la montagne sans pouvoir la découvrir. Elle s'était levée avant le jour et avait pris la route du sud avec son enfant et ma guitare que je lui avais donnée, la sienne étant brisée à son grand regret. « Albert, Albert !» s'écria Consuelo, saisi d'une émotion extraordinaire. « Cette guitare est à Venise, chez mon maître Porpora, qui me la conserve, et à qui je la redemanderai pour ne jamais m'en séparer. Elle est en ébène, avec un chiffre incrusté en argent, un chiffre que je me rappelle bien, A, R. Ma mère, qui manquait de mémoire pour avoir vu trop de choses, ne se souvenait ni de votre nom, ni de celui de votre château, ni même du pays où cette aventure lui était arrivée. Mais elle m'a souvent parlé de l'hospitalité qu'elle avait reçue chez le possesseur de cette guitare, et de la charité touchante d'un jeune et beau seigneur qui m'avait porté dans ses bras pendant une demi-lieue en causant avec elle, comme avec son égale. Oh, mon cher Albert, je me souviens aussi de tout cela. À chaque parole de votre récit, ces images, longtemps assoupies dans mon cerveau, se sont réveillées une à une. Et voilà pourquoi vos montagnes ne pouvaient pas sembler absolument nouvelles à mes yeux. Voilà pourquoi je m'efforçais en vain de savoir la cause des souvenirs confus qui venaient m'assaillir dans ce paysage. Voilà pourquoi surtout j'ai senti pour vous, à la première vue, mon cœur tressaillir et mon front s'incliner respectueusement, comme si j'eusse retrouvé un ami et un protecteur longtemps perdu et regretté. « Crois-tu donc, Consuelo ?» lui dit Albert en la pressant contre son sein. « Que je ne t'ai pas reconnu dès le premier instant ? En vain tu as grandi, en vain tu t'es transformé et embelli avec les années. J'ai une mémoire, présent merveilleux, quoique souvent funeste, qui n'a pas besoin des yeux et des paroles pour s'exercer à travers l'espace des siècles et des jours. Je ne savais pas que tu étais ma Zingarella chérie. Mais je savais bien que je t'avais déjà connu, déjà aimé, déjà pressé sur mon cœur, qui dès ce moment s'est attaché et identifié au tien, à mon insu, pour toute ma vie. »